Vous écoutez France Culture.
Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi avec Owen et Gov de Crustas, qui ne sont autres que l'auteur de la geste d'Owen, Tristan Félix. Dans ce nom-là d'Owen, que vous avez inventé, Tristan Félix, il y avait l'envie d'entendre le « à l'envers ».
Peut-être, oui. Je suis heureuse que vous entendiez ça et pas autre chose, comme j'ai pu l'entendre ailleurs. C'est ça aussi, oui, il y a « ohé », « en hé », et « oh ». « Ohé, où es-tu ?» On n'est pas toujours là où on devrait être. Mais sinon, le titre, hein, qui est aussi un prénom, il vient d'assez loin, en fait. Il vient d'une histoire d'amour, une véritable histoire d'amour. J'ai un nom de chevalerie qui est Gauvain, qui est le féminin de Gauvain, qui est le compagnon de Perceval. Et mon compagnon d'amour s'appelle Perceval, son surnom de chevalerie.
C'est pour ça que le livre est dédié à Perceval.
Oui. Mais à Perceval aussi, le personnage de Chrétien de Troyes, évidemment. C'est un personnage, je dirais... un peu comme Buster Keaton ou comme Don Quichotte, comme aussi les... Curieusement, les sons se ressemblent. Les personnages de Takeshi Kitano, on dirait presque une anagramme de Buster Keaton, où finalement, ils font des choses de façon clownesque à l'envers de ce qu'ils devraient faire. Et ils arrivent toujours à réussir ce qu'ils avaient prévu de rater et de rater ce qu'ils avaient prévu de réussir. Et Perceval, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit saigner la lance ou lorsqu'il voit les signes du Graal, ne pose pas les questions qu'il devrait poser. Et pourtant, c'est à lui qu'est revenue la grâce de voir les signes sacrés, quoi, ou les signes monstrueux, parce que c'est un peu la même chose. Et donc, Owen, c'est à la fois une féminisation après une masculinisation, et puis c'est aussi ce qui reste, le vide qui reste quand on a enlevé le G. Voilà, veine. Et le O, c'est un zéro.
Ça vous vient d'où ce goût-là pour les mots que l'on échafaude, comme cela Tristan Félix, parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire lorsque l'on ne vous a pas vu, en découvrant un livre titré Tristan Félix Owen, vous n'êtes pas un homme, mais bien une Parisienne du 18e arrondissement, oui. née au Sénégal. Pourquoi ce double-là, ce jeu, ce décalage entre le féminin et le masculin ?
Bah, pour moi, c'est un double nom générique, en fait. C'est pourquoi je voulais pas d'accent sur Félix. En latin, c'est l'épithète qui signifie heureux. Et Tristan, bon, j'allais pas mettre Tristana. La référence aurait été énorme. Ça m'est venu sans doute aussi d'une merveilleuse image que j'ai vue dans le sud de l'Irlande du Nord. Un Janus qu'il y avait dans un très, très vieux cimetière et dont je porte l'effigie autour du cou, d'ailleurs. Et qui contient à la fois une face vers l'Orient, une face vers l'Occident. Et pour moi, Tristan Félix, c'est une espèce de peut-être aussi de Janus, comme ça, qui peut être aussi bien une figure saturnienne, très triste ou joviale.
Voilà. C'est votre côté bicéphale, Tristan Félix. Vous militez pour la promotion des arts vifs et de la poésie. Oui. C'est ce que vous dites. Et tout cela en tant que clown. Alors, clown avec un E, j'ai bien noté.
Oui.
Plasticienne, marionnettiste et donc aussi poète. Qu'est-ce que vous entendez par là, les arts vifs et la poésie ? La poésie ne serait pas un art vif ? Ça viendrait en plus à côté, au-delà ?
Ben, la poésie, c'est... à sa toute origine, elle est psychopompe, enfin elle accompagne les morts dans l'au-delà, elle est issue de la prière, elle est issue des incantations vers les dieux ou vers les morts. Et en fait, pour moi, la poésie, c'est aussi une incantation vers ce qu'il y a de plus vif au tréfonds de la mort, quoi. Je ne distingue pas les deux matières, les deux magmas. Bah, un vif, quand on pêche, ça permet d'obtenir finalement un poisson mort à la fin. Mais c'est aussi vif parce que on parle souvent des arts vivants, du spectacle vivant. Et c'était peut-être aussi pour donner une vigueur à ce mot-là. Et puis pour faire entendre aussi le « à vif ». Un clown se doit d'être à vif. Wellnor, il n'a pas lieu d'être. Ça, j'en suis profondément convaincue.
Owen, votre personnage aussi, Tristan Félix, l'est à vif. Owen est à vif, elle n'aura jamais la peau de personne. C'est le début d'un texte.
Oui. Avoir la peau de quelqu'un, c'est terrifiant. C'est presque un acte d'anthropophagie. On prend sa peau. Et quand on reste à vif, on est tout le temps en train de régénérer sa propre peau. Donc on est du vivant perpétuel. Et ça, c'est bien.
De muet à jamais.
Oui, ah, c'est joli, de muet à jamais, oui.
Owen ou la geste d'Owen, c'est donc ce qui vient de paraître aux éditions Hermaphrodite. Tristan Félix, avec cet arrière-goût médiéval. Owen, ses vies, ses malheurs, ses ires. C'est pour aller jusqu'au bout de l'histoire d'Owen, qui à la fois est vous et toutes les parts d'enfance à dire.
Oui, les parts d'enfance et l'enfance des autres aussi. Je souhaiterais qu'Owen s'exprime au nom de toutes les enfances qui n'ont pas été accomplies ou qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté, qui ont été négligées, parfois méprisées. Et pour aller au bout du bout, mais au bout du bout, il y a la jetée, il y a l'infini de l'océan.
L'infini parce qu'il y a 108 textes, oui. 3 fois 36, les trois parties, 36 vies, 36 malheurs, oui. 36
6 plus 3 égale 9, 9 comme un 9. Et il y a un nouveau texte qui est en gestation, là. J'en ai fait une trentaine, et ce sera encore 36. Ce sont les caprices d'Owen et comment elle s'est épouvantée. Mais si on rajoute 36 à 108, ça fera encore, si on additionne les chiffres du nombre, ça fera encore 9. 144, 4, 4, 8, plus 1, 9. C'est comme les mandalas, c'est l'infini. Un jour qu'elle contemple les paumes de ses mains, passées au savon de Marseille, Owen comprend que ce sont les deux moitiés d'une seule main qu'on lui a sciées à sa naissance, sans lui demander son avis. Alors, elle les enduit de glue très forte et attend. Voilà! Elle écrit aussitôt une lettre à son amoureux, un grand loup légèrement pelé sur des pattes grêles. Mais ces phrases s'écrivent dans les deux sens à la fois. À droite pour l'embrasser, à gauche pour l'étrangler. Ça ne va pas du tout. Aussi décide-t-elle avec ses deux mains jointes de prier le grand seigneur des bois qu'il lui décolle les mains. Ouh. Quand Owen sort de l'école, elle parle plusieurs langues en courant. Le franciol, le mathématique, le latinien, l'anglish, le musical, le punitique par-dessus le marché. Elle est aussi ventriloque et rote. Elle parle à tout le monde à la fois, comme à la radio internationale. Il n'y a qu'un seul être à qui elle ne parle pas. Une bête bleutée, de profil, pleine de ventouses sous les pieds. C'est bien la seule qui l'écoute, à l'extrémité du monde. Cramponnée à la pointe de la pyramide de Khéops, elle note tout sur un papyrus avec grand soin. Elle espère un jour tout traduire en hiéroglyphes. Mais elle n'est pas Champollion. Pour renouveler son énergie, aux veines, s'est fabriqué une vertigineuse coiffe tout en capteur solaire qui s'ouvre et se ferme comme des pages de livre. Pour éviter de péter un plomb, elle prête ses volts à ceux qui n'ont plus de jus. On peut aussi se brancher sur place le midi. Elle est devenue héliothécaire à temps plein. Les dimanches de pluie, elle oscille et ruisselle entre les gratte-ciel, ainsi qu'une bigoudaine de haute volta. Elle reçoit parfois un œuf à la tête. Alors, ses yeux se brouillent et elle chante en s'accompagnant de ses bottes en caoutchouc pour noyer la désinvolture. Ein Anstadi Uke Dein An Edo Non An Kodeti pour noyer la désinvolture.
Et vous, Tristan Félix, vous oscillez comment entre le conte, la performance sur scène où vous êtes un clown avec nez rouge, sac de jute en guise de robe et valise à la main et la poésie avec ce livre-là aux veines publié aux éditions Hermaphrodite? Est-ce que dans votre cas, il ne s'agirait pas davantage d'une écriture poétique à dire dans le flux du récit avec cette histoire-là d'Oven? Vous parlez d'ailleurs de contelés, de petits contes.
De petits contes, oui. En fait, d'une certaine façon, c'est peut-être ces contelés sont des... Bon, le mot est un peu galvaudé, performance. On pourrait peut-être dire des numéros de cercle. Et il faut absolument que le clown réussit son numéro. Donc il y a un travail préparatoire qui est très long, pas forcément un travail d'écriture, mais un travail de concentration, de méditation, de concentration sur le corps vif, ou bien le corps des mots aussi. Comme je le dis à la fin du recueil pour les dessins qu'on peut qualifier de médiumniques ou automatiques ou spirit, peu importe.
Qui ponctue le livre, il y en a 9.
Oui. Et en fait, l'écrivain se concentre sur des phonèmes, parfois des sections rythmiques, des segments rythmiques, dirons-nous, et comme des exercices, comme des pompes. Et au bout d'un moment, la chute à prévoir apparaît. C'est étrange, on pourrait dire que c'est magique, mais quand l'écrivain commence à écrire son contelet, il ne sait pas où va être le tour. C'est en se concentrant immensément sur des phonèmes, des syllabes, des mots, avec d'autres mots qui sont dans les mots, bien sûr, comme on retrouve l'idée des mandalas. C'est ainsi que va surgir le numéro. C'est un numéro qui est très difficile. On peut se casser la figure, on peut se casser une jambe. On peut tout casser. Donc, il ne faut surtout pas le rater. Et comme vous me parliez de l'aller-retour qui peut exister entre la scène... et l'écriture, ces contes-là en l'occurrence, ben je citerai volontiers Maurice Mourier qui a très, très, très humainement et très généreusement préfacé ce recueil et qui me disait dans une lettre que finalement ces ovaines sont presque du spectacle écrit, du clown écrit. Donc je pense qu'il y a un aller-retour effectivement de la scène à l'écriture, mais aussi de l'écriture à la scène, puisque quand je... à l'occasion de la sortie, par exemple, des numéros de la revue que j'anime avec Philippe Blondeau, La Passe, ça provient bien sûr du texte, la performance. Mais ça peut venir, évidemment, l'écriture peut venir de la performance, à l'inverse. Voilà. C'est parce que, tout simplement, la langue est quelque chose de vivant, c'est un muscle.
Parce qu'avec vous, Tristan Félix, la singularité réside dans le fait que le clown parle. En général, on voit des clowns muets, des clowns qui font rire par leur corps, par leur tour. Vous, c'est avec la langue. Mm-hmm. Vous êtes une déclineuse de poésie, comme un portrait du poète en clown.
Peut-être, oui. J'ai eu rêvé, naguère, de faire un clown silencieux. J'y arrive pas. Je suis trop bavarde. Mais peut-être qu'il prendra le silence comme on prend le voile, je ne sais pas, il fera peut-être un jour vœu de silence, il changera d'allure, peut-être pas essentiellement, mais pour l'instant c'est vrai qu'il parle pas mal, comme si la parole devait être une baguette magique qui permet de libérer les secrets les plus troubles, les amours les plus cachés, ou les angoisses les plus abolissantes.
Sous couvert de chevalerie, avec oui. Des noms tels que Perceval.
Bien sûr. Mais les chevaliers ont cette force d'aller sans toujours savoir où ils vont. Les quêteurs du Graal quêtaient quoi ? Ils quêtaient peut-être le râle qui les faisait souffrir dans leur quête. Mais il ne fallait pas qu'ils trouvent l'objet de leur quête. Ils en seraient morts plus tôt. Et je crois que le clown est un petit chevalier. C'est à la fois quelqu'un de sacré, quelqu'un de monstrueux. Les chevaliers étaient dans la légende, c'est les troubadours, enfin les trouvères, semblablement, qui en ont fait cette image rêvée. Mais le chevalier pouvait parfois être une sacrée ordure. Il avait été élevé parmi les hommes. Il n'avait pas d'éducation. Il brûlait, violait, blessait tout sur son passage. Mais la poésie en a fait une image...
Chevaleresque.
Chevaleresque, voilà.
Votre clown à vous, Tristan Félix, s'appelle Gove de Crustace. C'est avec lui que vous avez monté plusieurs spectacles comme Babel Babil, c'était en 2007, ou encore Tombé du ciel. C'est même lui...
Tombe du ciel.
Tombe du ciel.
Gove de Crustace tombe du ciel.
Et le chien d'aveugle aussi, c'est le chien qui est aveugle ou c'est le Gove qui se laisse mener?
Oui, là, c'était une merveilleuse chienne d'une amie, une labrador sable. Et j'avais eu l'idée que c'était le chien aveugle qui menait son maître. Ou du moins que son maître était guidé par un chien aveugle. Et ils allaient voir une éclipse du soleil, ce qui permet peut-être de rendre la vue. Et ça, c'était une prouesse de clown. Élève un ovni dans une petite cage abandonnée. Elle lui verse des gouttes bleues chaque soir dans les yeux pour comprendre d'où il vient. Elle le regarde sans fin. Il n'a pas de paupières. C'est presque l'éternité. Un beau matin, voilà qu'il cligne des yeux. Mais non ! C'est que son front se ferme sur ses lèvres. Il ne va pas bien du tout. Elle lui rend sur le champ sa liberté, mais il emporte le flacon. Depuis, Owen pleure toutes les nuits sans savoir d'où lui viennent tant de larmes. Collé derrière l'opéra, un petit cirque, plus gros qu'une verrue, distribue la soupe à la grimace. Les freaks de tous les pays n'en ratent pas une. Ils font la queue depuis toujours. Parfois, des siamois ou une femme étron, à barbe, sont embauchés pour rire. Owen a mis le paquet. Une double bosse dans le dos, un bec de lièvre, des grands bras d'os jusqu'à par terre. Quand c'est son tour, elle tend son bol en tirant la langue. Elle fait un clin d'œil au serveur. Il lui verse quelques gouttes bleues. C'est tout. Elle reconnaît son ami OVNI, qui s'était enfui avec le flacon, page 81. Son front ne se ferme plus sur ses lèvres. Il va infiniment mieux. Merci.
Les spectateurs de vos spectacles ou de vos prouesses, comme vous préférez lire Tristan Félix, viennent voir une femme clown ou bien écouter de la poésie? Alors, ceux du premier rang.
Ceux du premier rang, je pourrais les mettre derrière. Il m'est même arrivé de mettre toute la salle, aussi humble en nombre soit-elle, sur la scène. J'étais toute seule chez les spectateurs. Et je dirais que Tristan Félix est plus textué que sexué. Et s'ils viennent voir, quelque chose, c'est du clown ou un clown. J'ai mis un E à clown parce que je trouve ça plus coquet, plus rigolo. Mais c'est pas forcément une féminisation ou une masculinisation. Je pense que le clown, il est soit en deçà, soit au-delà. En tout cas, c'est sûr qu'ils viennent voir et écouter et assister à de petits événements poétiques que le clown s'efforce de porter. Mais dans les spectacles, il y a une grande attention, comme nous le disions tout à l'heure, au langage, aux mots. Et dans les petites prouesses clownesques qui font suite aux parutions des différents numéros de la revue La Passe, il y a aussi une très très grande attention, mais comme d'ailleurs dans tous les textes que nous publions dans la revue, qu'ils soient de l'un, de l'autre, de l'une ou de l'autre. Voilà, beaucoup d'attention à la vigueur du mot et à son ciselage. Le clown, c'est quelque chose de brut et de ciselé.
Et à force de jouer de tous ces tours-là, de passe-passe, de prouesses, Tristan Félix, il vous arrive d'écrire en tenue de clown lorsque vous notez cette date qui va présider à l'écriture du poème ou du petit conte, du contelet. Vous êtes qui ? Cette femme dont on ignore le nom, Tristan Félix, Oven, le clown gove de Crustas. Vous êtes combien à l'intérieur ?
On est beaucoup.
Il y a cette petite poupée aussi en broche, à oui. Votre épaule.
Ouais,
en plus du Janus à deux têtes autour du cou.
Vous êtes observatrice. Oui, on est beaucoup, c'est vrai, mais tout le monde est beaucoup à l'intérieur. Et peut-être que je suis très, très gourmande. C'est vrai, j'aime bien la viande, j'aime bien les gâteaux, j'aime bien le vin, les alcools forts. Et je crois qu'il faut croquer la vie vraiment à pleines dents. Et même si ça fait mal, même si parfois il y a des morsures. Et parfois les gens sont tristes. Je le suis bien sûr moi aussi, bien sûr. Mais les gens sont tristes parce que je pense qu'ils n'ont pas donné assez à manger aux oiseaux de leur volière. Ils n'ont pas assez souvent ouvert la cage. Et c'est terrifiant, nous sommes sans doute à 0,00001% à peine de ce que nous pouvons échanger avec l'autre, de ce que nous pouvons offrir d'amour ou de haine, de drôlerie ou de sinistrose. Et quand Tristan Félix écrit, bien sûr, elle est aussi Oven, elle est cette petite poupée sur le pull, elle est Janus, le miroir qui se brise, elle est un kaléidoscope, bien sûr. Nous sommes des foules, et des foules dans la houle. Et c'est vrai que je regretterais de voir se noyer toutes ces personnes dans la houle. Donc je les agrippe sur un petit radeau. J'essaie d'en faire une petite tribu un peu mouvante, un peu agaçante parfois. Mais finalement, c'est économique, au sens de l'économie de la langue, parce que toutes ces incarnations sont traversées par la même attention au vivant. Et Maurice Mourier a très très bien compris ça. Maurice Mourier est un romancier... critique de film, critique également littéraire, et qui a été mon professeur lorsque j'étais à Nanterre. Et quand j'avais 46 ans, je l'ai retrouvé, c'est-à-dire très très étrangement, 23 ans plus tard, puisque il avait été mon professeur lorsque j'avais 23 ans à Nanterre. Et ça n'est pas pour rien qu'on retrouve certaines personnes. Il est en prise directe aussi avec le vivant. Et je crois que plus on déchaîne la vie, plus elle peut se faire reconnaître par ceux qui la désirent et la souhaitent. Les nuits d'âpre hiver, Owen se glisse à l'intérieur des animaux, sur la pointe des pieds. Elle les a dans la peau, surtout celle du ver de terre. Elle le réchauffe lentement du dedans, où la vie n'est pas compliquée, juste un peu tordue. Grâce à lui, elle visite le tréfonds de la terre, à la lenteur toute nue du temps. Elle admire les os de bœuf, des chiens, les glands de jais, la spirale momifiée des escargots. Mais la galerie va bientôt fermer. Les nuits de rue d'hiver, Owen se glisse à l'intérieur des animaux, à tâtons. Elle les a dans la peau. Surtout celle de la grande méduse. Elle peut voir tout l'infini de son dedans, comme à travers un hublot. Elle lui raconte tout ce qu'elle ne peut pas voir. Le requin Soquette, l'étoile Shiva et les pétroliers qui naufragent en fanfare. Du coup, on ne l'entend plus quand elle appelle au secours, derrière son masque de buée. Un jour, Owen doit quitter le ver et la méduse, le best-of des animals. C'est qu'on l'attend au-delà, pour une urgence. Il tremble soudain de froid. Plus de bouillotte, ni de compte pour exister. Tout flasque, ils se blottissent à l'intérieur d'un bébé phoque qui vient d'être pelé à l'économe. Ne pleurez pas. Les animaux repoussent dans les mots, dans le musée de l'homme aussi.
Votre Owen, Tristan Félix, si l'on en croit le dessin en couverture des éditions Hermaphrodite, est une petite bonne femme à tête noire, pattes et ailes d'oiseau, avec les seins qui pointent.
Alors ce dessin, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Julien Rivière qui est celui qui fait les couvertures des éditions Hermaphrodite. Mais je l'ai trouvé assez piquant, en effet. Elle a trempé ses ailes dans la nuit ou dans le pétrole, je ne sais pas. En tout cas, elle est allée au charbon. Elle a effectivement une tête toute noire, parce qu'elle est un peu négresse, il faut bien le dire. Et elle a des seins qui pointent comme des obus. Et puis ses pattes d'oiseau, finalement, elle en a quatre, ce qui lui donne quand même un sacré air du Maine. Et j'aime bien ce petit dessin, voilà. Il y a quelque chose d'à la fois écolier et de tragiquement adulte.
Un geste d'Owen, ses vies, ses malheurs, ses ires, de Tristan Félix, est aux éditions Hermaphrodite, dessins inclus. Quant à Tristan Félix elle-même, clown, plasticienne, marionnettiste et poète, vous en saurez plus en consultant l'internet www.franceculture.com, site depuis lequel vous pouvez télécharger l'émission et nous écrire. Sari Makwa, Michel Mestre, Anne-Catherine Lochard, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Tout de suite, à 19h30 sur France Culture, c'est Aline Payet, Jusqu'à la Lune et retour.